Aujourd'hui, Sciences publiques par Michel Alberganti.
Bonjour et bienvenue à tous dans Sciences publiques. Sur le site de Sciences publiques, sur franceculture.com, vous pouvez participer à cette émission si vous le souhaitez en nous adressant vos opinions et vos questions sur notre débat d'aujourd'hui. Comment échapper à la cyberdépendance?
Si votre enfant est accro à Internet ou aux jeux vidéo, appelez-le et approchez-le de la télévision, il risque d'être étonné.
Dans le camp, on ne badine pas avec le règlement.
Allez, debout!
Difficile, mais c'est pour cela que leurs parents paient cher, 30 euros par jour. Malgré les apparences, ces ados n'ont pas rejoint l'armée. S'ils sont au garde à vous, c'est pour soigner leur goût trop prononcé pour Internet et les jeux vidéo.
Moi, je suis là parce que je jouais 10 heures par jour.
C'est mes parents qui m'ont mis ici. Ils voulaient me désintoxiquer d'Internet. En plus, je ne voulais plus aller à l'école.
Tien Li, 16 ans, est en sevrage sec depuis 2 mois. Les lits au carré n'ont plus de secret pour lui. À la maison, il passait 7 à 8 heures par jour devant l'écran. Plus d'amis, plus de communication avec les parents.
Ce court extrait d'un reportage diffusé sur France 2 le 6 septembre dernier révèle l'ampleur des mesures très musclées prises en Chine pour lutter contre la cyberdépendance qui toucherait 10 millions d'adolescents dans ce pays. Aux États-Unis, le centre de retraite de Evansville, près de Seattle, propose depuis peu des cures de désintoxication contre la dépendance à Internet et aux jeux vidéo. Pendant 45 jours, les drogués du net redécouvrent les beautés de la nature bien réelle et bénéficient de conseils nutritionnels et d'un conditionnement physique, le tout pour la modique somme de 14 500 dollars. Les fondatrices de cet établissement estiment que 6 à 10% des internautes souffriraient d'une addiction. Alain Dervaux, psychiatre à l'hôpital Sainte-Anne, interrogé par Le Monde du 27 août, juge lui aussi que 6% d'internautes souffrent d'une addiction qui se traduit par plus de 50 heures passées sur le net en dehors de la vie professionnelle. En France, Médiamétrie évalue à 34 millions le nombre de personnes connectées à Internet. Selon ces chiffres, quelques 2 millions de Français seraient donc des accros à Internet. Pour s'en parler de ceux qui cèdent à la fascination des mondes virtuels proposés par les jeux vidéo, dont le festival se tiendra à Paris les 26 et 29 septembre. Comment diagnostiquer une cyberdépendance et quelles catégories de la population sont particulièrement touchées? Quelles mesures prendre pour se protéger d'une telle addiction? Faut-il aider les enfants à trouver un équilibre entre les mondes réels et virtuels? Pour répondre à ces questions, nous recevons aujourd'hui dans Sciences publiques Éric Bouana, qui est président d'Addictel, un dispositif de prévention et d'aide aux joueurs. Jean-Charles Nayebi est psychologue clinicien, psychothérapeute et chargé de mission d'expertise auprès des tribunaux pour enfants. Il est l'auteur de « La cyberdépendance en 60 questions » publié chez Retz en 2007. Michel Moati est maître de conférence en sociologie à l'université de Montpellier 3. Il est l'auteur de « La vie cachée d'Internet, réseau, tribu, accro » édité par Imago en 2002, et il est avec nous en duplex depuis Montpellier. Enfin, Dan Velea est psychiatre spécialiste dans les comportements addictifs, et il a publié un ouvrage intitulé Toxicomanie et conduite addictive chez Heure de France en 2005, et il prépare un nouveau livre, Ennui, cyberdépendance et société, qui paraîtra d'ici la fin de l'année chez Payot et qui sera écrit en collaboration avec Michel Hautefeuille. Je vous rappelle que vous pouvez nous communiquer vos opinions, vos témoignages et vos questions sur le site de Sciences publiques sur franceculture.com. Nos invités pourront répondre dans la deuxième partie de l'émission. Dan Velea, bonjour.
Bonjour.
Donc la première question qui se pose en matière de cyberdépendance, c'est un peu la définition de cette affection. Aujourd'hui, comme je l'ai rappelé, 34 millions de Français sont sur Internet. Donc si un pourcentage même réduit de cette population est touché, ça commence à vraiment concerner beaucoup de monde. Alors comment distinguer les personnes dépendantes de ceux qui ne le sont pas?
On va faire un petit peu un parallèle avec ce qu'on a déjà établi concernant les drogues classiques et les autres comportements addictifs, en sachant qu'il y a des comportements à risque excessif et il y a des comportements parfois récréationnels. Et évidemment, au-delà de l'excès, on se trouve face à l'addiction, la dépendance. Donc quand on parle d'une addiction, quoi que ce soit l'objet ou le comportement addictif qui est en jeu, on parle d'une focalisation ou d'une centration sur un objet, ce type de comportement, avec un désinvestissement par rapport à d'autres centres d'intérêt, avec une perte des relations sociales, social, familial et de travail, et évidemment avec une souffrance qu'on on est privé de cet objet. Là, ce qu'il faut faire très attention, parce que bon, c'est un concept qui date depuis 95, c'est deux psychiatres new-yorkais, c'est Moscovitch et Goldberg, qui ont commencé à créer et lancer ce concept. Il y a un risque quand même qu'on constate de plus en plus, c'est un risque de doxogénèse. Donc je reprends un terme de Jana King qui est très intéressant, c'est le pouvoir du corps médical de créer des pathologies nouvelles. Et c'est vrai qu'on se trouve, peut-être les pourcentages qu'on entend aux États-Unis sont exagérés. Moi, je pense pas, j'ai pas vu dans ma pratique, énormément par rapport à 6 à 10% des gens qui sont sur Internet. Ça serait quelque chose, ça serait une sorte de marée dans tous les services hospitaliers, dans les consultations des psys. On pense à peu près que le pourcentage se situe autour de 1%. C'est ce qu'on a évalué par rapport aux joueurs pathologiques, les jeux online ou les casinos ou les jeux d'argent tout court. Donc cette doxogénèse, il faut qu'on se méfie parce qu'on peut englober dans cette partie de dépendants et d'addicts pas mal de personnes et de jeunes surtout qui ont peut-être un comportement excessif sous le moment mais qui peuvent très bien faire une autre activité par la suite. On peut se trouver aussi avec certaines pathologies que bon, les familles ou même l'individu juge comme... honteuse, et puis bon, par exemple, je parle des gens qui sont des jeunes psychotiques, qui ont été en refus d'un traitement par des centres médico-psychologiques ou les psys, qui vont se retrouver derrière un diagnostic de ce genre. Donc le diagnostic initial doit être bien posé par des spécialistes et sans se lancer tout de suite par un effet de vague média dans ce type de diagnostic.
Jean-Charles Ayebi, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes auteur, comme je le disais en introduction, d'un livre sur la cyberdépendance, dans lequel vous répondez à 60 questions, donc... un traitement très large. Et la quatrième question, justement, donne la définition, votre définition de la personne cyberdépendante. Alors, je la cite, « Cette personne est dans la recherche constante de connexion au réseau informatique afin d'y établir une communication, d'y trouver une information du sexe ou du jeu virtuel. Elle éprouve une anxiété désorganisatrice si elle ne peut pas se connecter et sa vie personnelle et sociale s'organise autour de la connexion. » Alors, vous parlez également de phénomènes de manque similaires à celui qui accompagne la toxicodépendance. Alors, comment jugez-vous aujourd'hui, c'est important, on voit qu'on est passé de 6% à 1% avec Dan Valéa, mais il se trouve que 1% c'est quand même 340 000 personnes en France.
Exactement, c'est quand même énorme.
C'est quand même énorme.
Effectivement, c'est ça. Maintenant, évidemment, j'entends les observations de Dan Valéa sur cette doxogénèse possible. Mon impression, c'est que il y a évidemment un juste milieu. Bien sûr, outre-Atlantique, on a tendance à exagérer un peu sur les chiffres et les méthodes utilisées pour publier des recherches parfois pêchent par leur manque de cohérence. Mais de l'autre côté, je suis très méfiant à l'égard de notre tradition psychiatrique qui fait qu'en définitive, on prend le pourcentage de la population qui consulte à son cabinet comme quelque chose qui pourrait être référence en la matière. Nous savons pertinemment que quasiment 90% des gens qui ont des problèmes avec Internet ne souhaitent pas consulter un psychologue ou un psychiatre. Donc à partir de là, si je me base sur les gens qui viennent me voir, je ne peux pas dire que j'ai une idée très précise sur le nombre de pourcentages de cyberdépendants par rapport à la population internaute.
Est-ce qu'on a une idée déjà de ceux qui consultent, et de ceux qui sont traités ou de ceux qui sont suivis particulièrement ? Aujourd'hui.
Oui, on commence à en avoir une idée de plus en plus claire. Cependant, c'est quelque chose de très mouvant. Cela évolue. Je donne à titre d'exemple, il y a quelques années, quand je recevais des patients, que ce soit des cybersexes dépendants ou que ce soit des cyberjeux dépendants, en principe, pour les cybersexes dépendants, il était question de divorce ou de menace de divorce ou de séparation. C'était plutôt les épouses qui amenaient les époux en difficulté. De même, pour le cyberjeu dépendant, c'était les parents qui amenaient les adolescents à ma consultation alors qu'ils n'étaient pas consentants. Ça fait 2-3 ans, je vois émerger, par exemple, une population volontaire, informée cette fois-ci. Ça fait 10 ans qu'on fait du militantisme là-dessus, mais ça commence à apporter ses fruits. Par exemple, pas mal de cybersex dépendants en ce moment franchissent le pas de façon autonome, parfois même à l'insu de leurs proches, pour venir demander de l'aide au cabinet. Donc, si vous voulez, le tout évolue rapidement à mesure que l'information est diffusée.
Michel Moati, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes avec nous depuis Montpellier, comme je le disais. Et dans votre ouvrage sur la vie cachée d'Internet, vous abordez ce thème des accros. Alors comment vous les définiriez un peu par rapport à ce que Dan Velea et Jean-Charles Nayebi nous ont dit, et puis aussi en termes de phénomène peu de société?
Bah justement, enfin, moi j'écoute avec attention les intervenants. Moi je suis enseignant-chercheur en sciences sociales, en sociologie, donc ma définition va forcément prendre un petit peu de champ par rapport à ce qui vient d'être dit. Moi ce qui m'intéresse évidemment c'est plus les usages, les pratiques, etc. Essayer de différencier un petit peu les pratiques qu'on peut qualifier d'addictives, mais d'essayer de voir que, je sais pas, les accros aux messages mail n'ont pas forcément grand chose à voir avec les assidus de World of Warcraft par exemple. Ça, c'est des choses qui vont m'intéresser, essayer d'en voir, par exemple, les dimensions collectives, les dimensions communautaires, etc.
Voilà, quand on dit cyber, c'est très vaste, en fait.
C'est plus que vaste, c'est plus que ça. Et c'est pour ça que, pour répondre à votre question, vos questions, comment échapper à la cyberdépendance, comment lutter contre, enfin, tout ce que j'entends un petit peu là, sortant d'un lexique de psychopathologie, moi, j'ai envie de dire, sans faire de provocation, sans faire aucune provocation, que est-ce qu'il faut vraiment lutter contre? Bon, là, je suis entouré de médecins, de psychiatres, de psychothérapeutes, etc. Je connais bien les travaux de Dan Velea, j'ai fait une émission avec lui, etc. Je trouve ces travaux tout à fait intéressants, tout à fait passionnants en termes de mise en relation avec les drogues classiques, par exemple. Mais ce que j'ai envie de dire aussi aux médecins, c'est peut-être un peu pour ça que vous m'avez invité aussi, que vous avez invité un sociologue, c'est est-ce que c'est si grave que ça, docteur? Parce que bon, ce virtuel qui nous accroche, qui nous appelle, qui nous retient, qui est parfois un peu plus vampirique, je sais pas que la normale, que raisonnable. Est-ce que c'est vraiment une catastrophe? Est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce que c'est même la fin du monde réel? Quelqu'un avait une fois demandé sous forme de boutade si c'était pas désormais du réel qu'il fallait se délivrer, se désaccoutumer. C'est ce que disait Baudrillard quand il, je le cite, hein, il dit, c'est pour échapper à l'ultimatum d'un monde réel que nous sommes en train de le rendre virtuel. Il y a quelque chose qui est peut-être aussi une interrogation pour nous tous là-dedans.
Oui, Baudrillard qui n'était pas un fervent défenseur du virtuel par ailleurs. Hein.
Ça dépend comment on le lit.
Ça dépend, tout à fait, oui. Éric Boana, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes président d'Addictel, donc qui propose tout un dispositif au service un petit peu des joueurs, mais pas des joueurs uniquement sur Internet. D'ailleurs, pas à l'origine, c'était pas du tout ça votre point de départ. Ce sont les joueurs qui sont liés, qui ont une addiction aux jeux d'argent. Alors peut-être que justement, avec l'expérience que vous avez vis-à-vis de ces personnes, on peut en tirer des leçons vis-à-vis des gens cyberdépendants.
Effectivement, il y a de grandes leçons à tirer, c'est-à-dire que lorsque nous regardons les invités de cette émission et des invités d'autres émissions que j'ai pu faire ailleurs sur d'autres médias, on s'aperçoit qu'ils sont systématiquement interrogés, y compris dans les sphères étatiques ou institutionnelles, des professeurs, des universitaires, sociologues, psychiatres. Et on oublie parfois, mais peut-être à juste titre parce qu'il n'y en a pas beaucoup, qu'il y a des dispositifs opérationnels. Donc pour l'auditeur, ça veut dire tout simplement des gens qui sont une task force, des gens qui sont là pour aider des cas, mais non pas un cas de temps en temps à Montauban ou à Paris lorsqu'il se présente dans un cabinet de psychiatre, parce qu'un psychiatre ou un psychologue dans l'année, s'il peut en traiter 50 ou 100, c'est beaucoup. Dans un dispositif comme Addictel, ne serait-ce que pour les jeux d'argent, je parle pas des autres addictions, on traite en moyenne 10 000 cas par an. D'accord? 10 000 cas par an, sachant que qu'on n'a qu'une partie des joueurs qui se déclarent. L'intérêt d'avoir créé un dispositif et ce qu'on peut amener en termes d'études épidémiologiques pour les scientifiques et d'aspect expérimental, c'est que nous sommes les seuls à avoir les statistiques sur qui sont les joueurs, comment ils se comportent, que veulent-ils. Alors effectivement, j'entendais tout à l'heure parler Monsieur Moati avec une approche peut-être un peu plus sociologique de la chose. Et moi, je dirais que la vérité, elle est un petit peu au milieu. Quand on dit « est-ce qu'on doit s'inquiéter, est-ce que c'est un problème extrêmement grave ?» Moi, je vais vous dire « oui, c'est un problème extrêmement grave, parce que nous ne sommes pas en train simplement de démissionner vis-à-vis de nos enfants. Je suis papa de 3 enfants, et moi-même, j'ai du mal à limiter mes propres enfants, c'est quand même un comble. Je pense que la société, je parle dans 20 ans, dans 30 ans, sera modifiée par des gens qui penseront effectivement que le virtuel c'est une bonne manière de s'échapper du réel, mais qui travaillera dans le réel dans 30 ans? Ça, et j'aurai une deuxième, quand je dis travailler dans le réel, c'est-à-dire qui s'inscrira dans le réel, qui va nous donner à manger, construire des chemins de fer, etc. Parce que là, on n'a pas besoin de virtuel, on a besoin d'industrie, et je crois que l'industrie aujourd'hui, elle n'est pas très à la mode. Il y a un deuxième point, il y a aussi à un moment donné la notion d'autorité parentale, mais là je laisserai les spécialistes en parler. Je pense que dans 30% des cas que nous traitons, je peux vous dire que si j'avais la possibilité moi personnellement de les recevoir, et j'ai essayé de temps en temps, je m'amusais à les recevoir, de temps en temps faire un peu de morale aux gens, ça recale. Donc vous voyez que il y a d'un côté la psychologie ou la psychiatrie, de l'autre côté il y a le côté sociologique des choses, mais un bon petit coup de morale ou un bon petit coup d'autorité, ça peut aussi faire du bien. Donc tout n'est pas dans les approches psychologiques. Maintenant, je voudrais rajouter une dernière chose concernant la grande différence qui existe entre les possibilités d'intervention, puisque c'est mon métier, entre la cyberaddiction dans les jeux d'argent et les jeux vidéo. C'est que le monde des jeux d'argent, que ce soit de Vegas à Macao jusqu'à Internet, sont d'accord d'intervenir lorsqu'on leur demande sur le cas d'un joueur. C'est-à-dire que faut savoir qu'aucun joueur, dépendant ou excessif, deux catégories existent dans les jeux d'argent, ne souhaitent avoir affaire à un psychologue. Ils veulent tous une limitation immédiate.
Voilà, vous confirmez, quoi. C'est ça l'information.
Tout est là. Ils ne veulent pas aller voir un psychologue. Par contre, dans les jeux vidéo, et je terminerai par là pour ne pas prendre trop la parole dans un premier temps, en ayant rencontré les deux grands syndicats des jeux vidéo en France, je peux vous dire que nous sommes à l'inverse. Je m'attendais à une réception beaucoup plus chaleureuse pour essayer de régler un problème qui là concerne les enfants, parce que dans les casinos il n'y a pas d'enfants, il y a des majeurs. Je peux vous assurer que nous avons affaire à un métier qui ne souhaite pas aider les enfants.
Très bien. Bon, on va faire réagir tout de même Dan Velea et Jean-Charles Nayebi à ce que a lancé Michel Moati, une question de fond. Est-ce que c'est vraiment grave, docteur? Donc peut-être en premier Dan Velea.
Ben, écoutez, moi je profite justement de cette réaction de Michel Moati parce que souvent on constate sur les blogs, en réaction à des émissions, on parle de cyberdépendance, que les gens restent un peu dans l'incompréhension. On apparaît comme quelqu'un, comme des spécialistes ou des gens qui, avec l'aura d'un savoir, on va mettre tout de suite un diagnostic de catastrophe, tout de suite quelque chose de définitif et d'excessif. Il s'agit vraiment d'une pathologie grave, quand on la voit arriver au cabinet ou dans une consultation hospitalière ou dans différentes autres structures, des gens qui sont en souffrance, des familles qui sont en souffrance réelle. Mais il y a peut-être quelque chose vraiment qu'il faut qu'on insiste, on parle pas d'Internet là. Cyber, vous avez dit, c'est très vaste. Finalement, on parle de justement ce qu'Internet peut ouvrir. Internet, c'est un portail vers la sexualité pathologique, vers les achats online, évidemment vers la communication, les rencontres virtuelles qui peuvent se concrétiser, et évidemment les jeux vidéo. Donc, ce portail-là n'est pas un danger en soi, c'est un outil génial, c'est quelque chose... J'ai raté de peu une émission où j'avais refusé d'y aller, parce qu'on me posait la question si Internet rend bête. C'est une question à laquelle je reste pantois, parce que c'est vraiment... Ça n'a rien à voir avec le débat. Ça, c'est quelque chose de très important. Est-ce que c'est grave? Oui, c'est grave dans les cas qu'on voit en consultation et de ce qu'on entend. Parce que, comme disait Eric Buana, en tant que père, il se rend compte qu'il a du mal avec ses enfants, à les contrôler, à pouvoir les canaliser vers autre chose. Et on entend ce type de discours dans beaucoup de discussions, de salons, discussions amicales ou quoi que ce soit. Donc, il y a un point d'interrogation là-dessus. Maintenant, aussi pour rassurer ceux qui nous écoutent, on est face quand même à un phénomène de mode, parfois, souvent transitoire. Souvent même les jeunes, j'insisterai, des jeunes qui sont complètement accros, qui peuvent jouer 50 heures par semaine et qui sont complètement déconnectés de la réalité parce qu'ils adorent trop la virtualité, à un moment donné peuvent même trouver d'autres petites activités et si on les aide, évidemment, seront beaucoup plus faciles vers ce chemin. Il y a aussi un autre aspect qu'il faut pas l'oublier, c'est que Internet et tout ce qui concerne l'usage d'un comportement addictif ou d'un objet addictif, c'est un outil de médiation sociale à l'heure actuelle. Ça peut aider, évidemment, le fait qu'il y a de l'alcool, qu'il y a du cannabis dans la société, ça aide un petit peu la société face à certains passages à l'acte ou face à certains malheurs. N'en parlons pas de l'usage médicamenteux en France, où on est face à des situations de mauvaise adaptation. On dit qu'on est face à des patients, mais combien de ces patients-là font une adaptation à la réalité avec leur petit outil qui est bon et qui leur permet de tenir la route? C'est le cas aussi avec Internet.
Jean-Charles Nayebi, sur cette question.
Oui, voyez-vous, moi je traite de la souffrance humaine. Et, je n'ai pas un traitement de masse dans la discipline que je pratique. Donc à partir de là, Oui, c'est grave, docteur, dans la mesure où, voilà, j'ai affaire à de la souffrance humaine, des parents qui en arrivent à divorcer sur ce genre de, d'histoire de famille. Comme expliquait mon collègue, c'est un portail, ça ouvre pas mal de choses, des choses qui, autrement dit, ne seraient pas venues sur la table si le comportement inadéquat de l'enfant n'était pas là. Et pour moi, c'est grave dans la mesure où je devrais... Je me souviens d'une anecdote, c'était à la fin d'une intervention en Suisse, c'était une réunion d'INSERM, et après la réunion, une personne s'est approchée de moi en disant « Moi, je pense que l'homme, dans son évolution, fait de la sélection, et on arrivera à surmonter Internet aussi comme on a surmonté la télé, le téléphone, l'électricité. » J'ai fait une réponse et j'ai pas voulu poursuivre plus. Je disais que sur cette route d'adaptation, il y a des accidentés.
Quand vous dites surmonter, ça veut dire maîtriser, pas
s'y faire, s'adapter.
C'est pas un obstacle en fait, Internet.
Vous savez que avec l'apparition de la télé ou l'arrivée de téléphone, il y a eu le même genre de débat à l'époque, comme quoi le téléphone rendait impersonnel les relations humaines. L'être humain met du temps quand même. Il arrive à trouver les objets pour lesquels il n'a pas de culture et par la suite, il va développer la culture qui va avec l'objet. Donc, il y a eu ce genre de débat par rapport à la télé, par exemple, qui rendait bête ou passif ou inculte. Ça a existé. Donc, on y a droit encore une fois. Je pense que c'est pertinent à chaque fois de se poser ces questions-là. Mais sur cette route d'adaptation de l'humanité, pour une mutation que je juge comme profonde, ce que ça va entraîner, il va y avoir des accidentés. Beaucoup d'accidentés. Le travail de Dan Valéal ou le travail d'un Jean-Charles Naïbi, c'est de s'occuper de ces accidentés.
Très bien, je vous rappelle que vous écoutez Science Publique sur France Culture et que nous débattons aujourd'hui de la question « Comment échapper à la cyberdépendance ?» Alors Michel Moati, donc, vous aviez émis ces premiers doutes. Est-ce que il n'y a pas aussi dans le débat tel que Jean-Charles Naïbi le présente, une confusion peut-être entre les causes et les conséquences? Est-ce que quand on est malade du net, est-ce que c'est à cause du net ou bien est-ce que le net finalement révèle est le réceptacle de problèmes qui existent par ailleurs?
Bah écoutez, je crois qu'en effet, il faut peut-être reprendre les choses par le début et revenir, quitte à remettre une couche. Bon, je vais encore m'attirer foudre peut-être des médecins qui sont avec vous là. Je crois qu'il faut reprendre, et je vais rebondir sur ce que disait Dan Valéal tout à l'heure, il s'agit en aucun cas, sauf pour peut-être pour une infime minorité de gens qui sont en dérive totale et qui sont dans une dépendance très 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 forte et qui représente sans doute encore beaucoup moins qu'un pour cent des internautes, il s'agit pas d'exil définitif vers un monde cybernétique totalement éloigné de notre vie quotidienne. Il s'agit pas de ça. Il s'agit, dans l'immense majorité des cas, de pratiques qu'on pourrait qualifier d'amphibie, c'est-à-dire qu'on est sur Internet pour faire se livrer un certain nombre d'actions, d'activités, de pratiques pour rejoindre tel et tel site, tel ou tel domaine, et qu'on y fait des actions bien précises. Alors après, il faut savoir si il s'agit, la pathologie prend en compte l'aspect chronophage de la connexion, du temps passé, parce qu'il me semblait que, en tant que papa, tout à l'heure, un de vos invités s'émouvait du temps passé par ses enfants. C'est quelque chose de très proche de ce qu'on vivait il y a encore quelques années, que beaucoup de familles vivent encore vis-à-vis de la télévision, qu'on soit devant la télévision ou devant Internet. Je crois que ce qui est important, c'est de savoir ce qu'on y fait au-delà du temps passé. Un temps excessif, bien entendu, est embêtant, mais à part ça, qu'est-ce qu'on y fait? On a aussi parlé longtemps de télévision comme fenêtre ouverte sur le monde, fenêtre de connaissances, etc. Il est évident, c'est plus qu'un lieu commun de le dire, qu'Internet propose aussi ça dans une mesure bien plus large. Alors, je crois que ce qu'il faut évaluer aujourd'hui, c'est la capillarité qui peut exister entre deux mondes qui cohabitent désormais, qu'on le veuille ou non, celui de l'Internet et celui de la vraie vie. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que pour beaucoup de gens, pour beaucoup de jeunes gens en particulier, la vraie vie, celle des actions et des interactions sociales, c'est une vie essentiellement contrainte, une vie de pression, d'oppression, un monde très inquiétant, un monde réel, certes, mais qui est habité par, des traders fous, le pôle emploi, les suicides des cadres, les enlèvements d'adolescentes, les règlements de comptes entre communautés absurdement rivales, etc. Donc ce monde-là, peut-être que ce réel-là, il n'est pas tout à fait satisfaisant non plus pour beaucoup de gens, beaucoup de jeunes. Ça ne veut pas dire qu'Internet est un refuge avec des éléphants roses, etc. C'est aussi un monde dans lequel on peut dans une certaine mesure, dans une certaine échelle, recomposer une certaine partie du monde dans lequel on vit avec d'autres éléments de composition. Par exemple, je vais prendre un exemple qui me semble important, c'est le recours à l'information qu'on appelle alternative, qui est essentiellement pratiquée, enfin qui est beaucoup pratiquée par les jeunes. Je vois mes étudiants qui ont recours à ces sites là d'information. Je pense pas seulement à Mediapart, à 89, etc., mais aussi les blogs, etc. Essayer de recomposer, de reconstruire une information qui semble s'échapper à eux dans le monde réel, une information qui serait pas tout à fait objectif, qui serait pas tout à fait conforme à ce qui se passe réellement. Donc Internet sert aussi à ça.
Je crois qu'on a un peu, on a compris. On va essayer de réagir à tout ce que vous nous avez dit là, et effectivement, qui peut être le centre du débat finalement. Éric Boisnat voulait réagir.
Oui, je veux réagir dans une partie à laquelle pense certainement Monsieur Moati, qu'il n'a pas cité, mais en fait, Internet, c'est aussi le lieu où tous les gens qui sont un petit peu perdus trouvent de l'aide. Et ça, c'est énorme. Et dans beaucoup de domaines, même dans le domaine de la consommation, où on peut acheter beaucoup plus vite, choisir les produits que l'on veut acheter, les comparer, ce n'est pas rien, rencontrer une personne, il y en a qui se marient grâce à Internet, il y en a qui trouvent de l'aide pour régler leurs problèmes d'addiction, il y en a qui arrivent à savoir qui ils sont. Est-ce que je suis malade du jeu? Est-ce que j'ai un comportement normal? Est-ce que je suis dans la moyenne?
Vous avez raison. Enfin, je vous coupe juste pour dire. Vous avez tout à fait raison, mais c'est pas. Je crois pas que ça soit un choix par défaut. C'est pas seulement des perdus. C'est pas des gens égarés. Ça peut être aussi un premier choix que de faire ces courses sur Internet, par exemple, ou de consulter l'information sur Internet.
Nous sommes tout à fait d'accord. Je ne posais pas cela comme une réponse ou comme un pendant aux excès. Je disais au contraire, sur Internet, on a apporté beaucoup de progrès, des raccourcis relationnels, des raccourcis commerciaux et aussi des raccourcis en termes thérapeutiques très très importants.
Dan Valea, est-ce que vous percevez ce que Michel Moati a soulevé, c'est-à-dire ce choix véritable du monde virtuel par rapport au monde réel dans certains cas, parce que justement à cause des caractéristiques du monde réel, c'est-à-dire non pas une attirance extrême par ce virtuel, mais un véritable choix objectif.
Écoutez, il y a deux cas de figure. Il s'agit parfois des gens qui ont des fragilités, qui ont des failles narcissiques importantes, des vides identificatoires, des difficultés d'intégration dans la société, qui vont trouver dans Internet, avec les sites de rencontres, avec les jeux, un monde complètement lisse qu'ils peuvent modeler comme ils ont envie. Il s'agit parfois des gens qui choisissent pertinemment ce mode de vie sur Internet parce que c'est vraiment quelque chose de génial, qui leur permet de faire des rencontres, qui leur permet vraiment de passer du temps avec des amis online, qui deviennent souvent des amis réels. C'est ça qu'il faut pas oublier. Nous, la partie évidemment qui nous pose problème, ce sont les gens qui ont déjà des failles, des difficultés d'intégration auparavant, qui ont des fragilités, des facteurs de vulnérabilité, et qu'on va retrouver finalement en consultation, qu'on essaye d'aider peut-être à mieux maîtriser cet outil, à pouvoir l'intégrer dans leur vie. Et ça, c'est peut-être au niveau de la société qu'on doit se poser la question, comment va-t-on intégrer Internet? Quel type de limites on va pouvoir établir? Comment on va éduquer les gens pour pouvoir l'utiliser de manière correcte et que ça leur fasse du bien? Quand je dis correct, c'est pas du tout un politiquement correct, c'est vraiment dans le sens où ils arrivent à ne pas se faire du mal avec. Donc, à partir de ce moment, on peut se poser des tas de questions. J'ai dit à un moment donné que certains vont trouver une sorte d'adaptation face aux vicissitudes de la vie, des difficultés relationnelles, des difficultés suite à une séparation, suite au chômage, suite par exemple, je parle des jeunes qui vont se retrouver sous des sites parce qu'ils sont complètement ostracisés et marginalisés. C'est le célèbre phénomène de otaku au Japon. On a toute une génération, les accros au manga, à des jeux vidéo, qui ont du mal un petit peu à s'intégrer dans une société qui, n'oublions pas, est passée d'une époque féodale à une époque hyper industrialisée. On n'a pas pris compte, justement, de ce côté d'accompagnement. Et c'est justement ces cas limites qu'on peut aussi retrouver ou qu'on doit se pencher là-dessus.
Jean-Charles Nayebi.
Oui, effectivement, c'est un bel exemple, les otaku, les hikokomori. Il y a eu là une sorte de bond considérable que la culture japonaise n'a pas su métaboliser à temps. Et je pense que nous risquons, en tout état de cause, d'avoir, par rapport à la société numérique qui se profile à l'horizon, des difficultés qui peuvent être semblables. Maintenant, je ne voudrais pas vraiment, lorsque je suis invité pour parler comment échapper à la cyberdépendance, lister les bienfaits de l'Internet. Évidemment, il n'est pas question de faire le procès de cet outil magnifique, extraordinaire. Et il y a beaucoup de gens avec beaucoup d'argent qui le font beaucoup mieux que moi en vendant des gadgets. Donc je souhaiterais revenir sur la cyberdépendance. Ajouter une chose à ce qui a été dit.
On a un peu de mal à la cerner, justement. C'est ça qu'on essaie de faire.
Voilà. Donc l'Internet, c'est magnifique. Je pense que nous avons tous compris et nous sommes tous d'accord. Un certain nombre de problèmes posés aux gens avec Internet, l'usage qui en est fait, ne sont pas forcément des dépendances ou des addictions. Il y a un mésusage d'Internet, il y a des usages abusifs ou excessifs de l'Internet, de cette technologie-là, sans qu'on soit dans le cadre d'une dépendance. Dans la dépendance, il y a une abolition de la volonté, si vous voulez. Lorsque je veux arrêter de surfer sur Internet, pour jouer, pour faire du sexe, pour chatter, et je n'y arrive pas. Ça, c'est un problème. Maintenant, lorsque je commence à 8 heures du soir, et je ne mange pas, je ne bois pas, et à 4 heures du matin, je joue toujours, et que le lendemain, je peux pas assurer mon travail, voilà. Ça, c'est l'addiction, ça, c'est la dépendance. Mais si j'ai un usage qui est fort de l'Internet, si j'aime bien discuter 2 heures avec un ami en Australie, par contre, si je dois tourner le bouton et arrêter tout ça, j'y arrive, je n'ai pas de problème.
Donc c'est ça, vraiment la frontière, c'est la volonté, c'est être capable de continuer à exercer sa propre volonté.
Mais je ne peux plus, j'ai un problème. Voilà. Sinon, il y a des mésusages d'Internet qui sont problématiques sans pour autant relever de la psychopathologie.
Échapper à la cyberdépendance, c'est le thème de notre débat aujourd'hui dans Sciences Publiques sur France Culture en direct du studio 167 de la Maison de la Radio. Nos invités sont Éric Boinin, président d'Addictel, un dispositif de prévention et d'aide aux joueurs, Jean-Charles Nayebi, psychologue clinicien, psychothérapeute et auteur de La cyberdépendance en 60 questions, publié chez Retz en 2007. Michel Moati, maître de conférence en sociologie à l'université de Montpellier 3, auteur de La vie cachée d'Internet, réseau, tribu, accro, édité par Imago en 2002, qui est avec nous en duplex. Depuis Montpellier, enfin Dan Velea, est psychiatre spécialisé dans les comportements addictifs et l'auteur de Toxicomanie et conduite addictive chez Heure de France en 2005 et d'un ouvrage en préparation, Ennui, cyberdépendance et société, qui paraîtra d'ici la fin de l'année chez Payot. Alors Jean-Charles Nayebi nous a précisé un peu mieux, je trouve, parce qu'on a un petit peu erré pendant cette première partie pour essayer de cerner le phénomène de la cyberdépendance. Donc il nous l'a beaucoup mieux défini. Et Éric Boinin voulait intervenir pour faire la distinction, peut-être à l'intérieur même de cette problématique que vous avez définie, entre les adultes et les enfants. Effectivement, peut-être ce n'est pas du tout la même situation.
Non, ce n'est pas la même situation. Je crois qu'on ne peut pas parler d'addiction chez des enfants ou de jeunes ados. Par définition, les enfants ne savent pas gérer leur rapport au plaisir. Lui aussi se base sur une expérience de clinicien. Je parle notamment de celle de Marc Valeur, qui peut être certainement recoupée par d'autres à Marmottan. Mais en 2008, ils ont relaté plus de 300 cas au maximum, tous services confondus, de personnes qu'on peut considérer comme dépendantes des jeux en réseau sur Internet. Par ailleurs, je voudrais citer quand même deux chiffres qui sont d'une étude Ipsos 2009, donc on a besoin de chiffres, c'est tellement rare dans ce domaine, on va les citer. 40% des parents pensent que leurs enfants jouent trop longtemps. Dans un tiers des foyers, c'est un sujet de dispute important, et interdit de jeu par leurs parents, les enfants peuvent devenir extrêmement violents. Je fais notamment référence à deux jeux qui s'appellent le premier World of Warcraft, qui sont extrêmement connus des gens qui connaissent les jeux vidéo, et aussi Dofus. Il y a un d'autres chiffres. 96% des enfants jouent à des jeux vidéo. Comme qu'on parle de tous les enfants. Autant dire tous les enfants. Un tiers, plus de 5 heures par semaine. Jusque-là, pas de souci. Chez les garçons, un tiers joue plus de 7 heures par semaine. 40% des garçons jouent à des jeux en réseau. Et ils pensent tous que la vie serait bien plus ennuyeuse sans les jeux vidéo. Voilà quelques éléments qui peuvent décrire ce que pensent les enfants des jeux vidéo. Pour eux, c'est un univers qui est extrêmement pédagogique.
Ce que vous décrivez, ça relève pas du tout de la définition de la cyberdépendance telle que Jean-Charles Naïebi l'a précisé. Là, c'est des...
Parce que nous sommes dans une population d'enfants.
Voilà. Je pense pas que c'est la conclusion que j'en tire. Je vais rectifier un certain nombre de choses par rapport à ça. C'est que, en définitive... Je viens de donner une définition concernant une idée très précise qu'on peut se faire lorsqu'on est addict. Voilà. Et que les chiffres ne sont pas de nature à contre-argumenter cette définition-là. Par contre, cette étude-là que je connais bien, qui est plutôt parue le 10 décembre 2008, évoque ce distinguo entre ce monde-là. Maintenant, très rapidement, il faut dire que les tranches d'âge dans les études sont des tranches d'âge mathématiques sur le nombre des années, mais qu'en définitive, nous autres, lorsque nous traitons des patients, nous avons affaire à quelque chose qui ne se mesure pas à l'âge chronologique, mais qui relève de l'immaturité affective. Donc, vous pouvez avoir des gens 30 ans accros du jeu, qui sur le plan affectif, ont peut-être 7 ans. Et puis de l'autre côté, vous pouvez tout à fait trouver des enfants qui sont plus avancés par rapport à la maturité. Donc ce n'est pas un contre-argument, c'est une différence de position épistémologique.
Alors une question d'un auditeur, Jean-Claude de Cuzon, qui nous demande à partir de quel volume de consultation, alors je suppose consultation d'Internet, considérez-vous qu'un internaute est cyberdépendant Dan Valéa.
Peut-être justement, c'est un des pièges, parce qu'on rencontre souvent l'aspect quantitatif dans les consultations Internet. Et ce qui nous frappe de plus en plus, c'est la qualité, c'est l'aspect qualitatif. Ça veut dire pas seulement le nombre d'heures passées en connexion, qui peuvent dépasser 50 heures parfois par semaine, ce qui est énorme déjà. Ou en termes journaliers, ça peut être 20 heures. Bon, j'ai eu des patients, 20 heures avec des petites pauses pour dormir, se reposer et recommencer à jouer ou chatter. Mais c'est surtout l'intensité. Justement, qu'ils mettent en jeu, parce qu'ils ne sont pas capables de faire quoi que ce soit, parce que c'est la frustration qui va être engendrée de quitter le jeu ou la connexion, rien que pour 2 minutes, pour une activité quelconque. Donc évidemment l'aspect horaire, mais aussi la qualité et le côté intense de cette connexion.
Alors justement, Jean-Claude, le même auditeur, précisait un peu plus après sa première question, pourquoi ne pas parler des produits, sites, réseaux sociaux, etc., qui sont développés et pensés afin d'être addictifs?
Ça, c'est de toute façon, c'est l'aspect marketing. Donc, on a depuis quelques années des campagnes de pub où on cite l'aspect addictif, des campagnes pour une boîte de travail intérimaire, pour un parfum, où on met le mot addict. Vous y allez sur Internet et vous allez voir un argument de vente majeur de certains types de jeux, c'est « the most addictive game ». Donc plus il est addictif, plus va être une qualité extraordinaire. Donc évidemment qu'on va mettre quelque chose de très addictif dedans. Qui va répondre à quoi? Qui va répondre à plusieurs critères. Vous avez cité l'immaturité affective, les failles narcissiques, des vides identificatoires, l'ennui. Il faut pas oublier qu'on est face à une société d'ennui. On cherche des sensations. On peut trouver ces sensations sur Internet, via la rencontre, via le jeu. Et on va peut-être parler aussi du jeu parce que c'est un biais énorme de sélection. Mais aussi l'incapacité à résister à des frustrations. Et ça, on le constate énormément chez nos patients accros.
Michel Moati.
Oui, moi je suis content d'avoir entendu Dan Velea, le docteur Velea, nous dire qu'il fallait être un petit peu plus sélectif dans notre approche. Et ça, je crois que c'est le préalable d'un discours un petit peu sérieux sur l'addiction à Internet. C'est en effet de considérer que certaines activités, certains protocoles logiciels sont plus addictifs que d'autres, que certains domaines, certaines pratiques en ligne sont plus socialisantes que d'autres. De pas tout mettre dans le même panier de la connexion aliénante. Toutes les connexions réseau, je crois, ont pas la même valeur addictive, toutes n'ont pas la même force socialisante, la même capacité à créer, entretenir des liens, y compris sur les réseaux sociaux dont il vient d'être question. Et je crois que certaines de ces connexions-là, sans être grotesques, on peut les qualifier de sociales, voire de citoyennes. Il n'y a pas 30 millions d'otaku en France. Il ne faut pas non plus tout mettre dans cette espèce d'étiquette qui renvoie un petit peu avec... là, on est vraiment dans le politiquement correct, je crois, avec un regard un petit peu moralisateur sur ça. Donc ce préalable-là, il me paraissait réellement important.
Tout à fait. Éric Boisnat veut réagir également.
Oui, je voudrais réagir parce que, encore une fois, j'ai la chance ou l'opportunité depuis des années d'avoir tellement de milliers de cas à gérer qu'on arrive à fournir aux scientifiques des éléments assez intéressants. Ce qu'on a remarqué chez Addictel, que ce soit dans les jeux d'argent, enfin cyber-argent on va dire, ou dans d'autres jeux, ça a été confirmé par les autres études qui ont été faites ou les autres psychothérapeutes que j'ai rencontrés dans le monde des jeux vidéo, au moins dans le métier des jeux, 80% des addicts, je parle des malades, je parle pas des joueurs excessifs qui peuvent à un moment donné avoir un retour sur eux-mêmes. Je parle des malades. Ils sont malades avant de rencontrer le jeu. Ce n'est pas la machine à sous qui a rendu l'individu malade, il avait déjà des faiblesses, soit suite à un divorce, à une maladie.
Donc c'est une exploitation plutôt d'un état préexistant.
Je ne dirais pas que c'est l'exploitation, parce que là on responsabilise les casinos ou le jeu. Ce n'est pas ça. Le jeu n'est pas un danger en soi. Non, mais l'eau ça brûle, enfin l'eau ça mouille, le feu ça brûle. Le jeu, lui, c'est pas une drogue en soi. Ce que je peux juste
dire. Sauf quand elle a été conçue un petit peu, c'est ce que cet auditeur laissait entendre, quand elle a été conçue volontairement dans ce sens.
Alors, elle n'a pas été conçue volontairement dans ce sens. Justement, ça c'est l'auditeur qui le dit. Moi, alors que justement, je suis assez critique sur le...
Non, précisez que vous parlez de jeux d'argent et pas de jeux de vidéo.
Non, mais là, je vais parler de jeux vidéo, justement. Je fais bien la différence. Dans ce domaine-là, j'ai rencontré, donc, comme je vous l'ai dit, les différents opérateurs de jeux vidéo, que ce soit des marques ou alors des syndicats de jeux vidéo. Ce n'est pas une volonté métier de rendre les gens addicts, même effectivement si on utilise après le mot addict dans les parfums et autres. Ça, ce sont plus des petits outils marketing, des petits signaux rigolos. Mais en fait, c'est qu'on donne à des gens, à des jeunes, à des gens un peu foufou, alors des petits génies, la direction marketing, la direction technique, de fabriquer des jeux. Et eux, ils n'ont aucune conscience de ce que peut ressentir l'autre de l'autre côté. C'est-à-dire que le patron, lui, de la grosse multinationale, il n'a pas l'intérêt, il ne veut pas. Il n'y a pas de volonté. Par contre, il y a une irresponsabilité de ces grosses compagnies vis-à-vis des problématiques
d'addiction. C'est un peu angélique quand même, cette vision.
Le côté responsabilité, moi je le trouve très adéquat pour eux. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même.
Dan Velea, d'abord.
On assiste à des jeux vidéo dans lesquels la banalisation de la violence et des conduites, vraiment, qu'on se pose, ça devient débile. Donc c'est à se poser la question si ces fabricants de jeux, dans leur déontologie, de panouir ou quoi que ce soit, n'ont pas intérêt un petit peu de vérifier ces génies-là qui sont là en train de créer des jeux, en se posant la question quel est le message peut-être qu'on transmet avec ces jeux. Je vois pas par exemple le sens d'un jeu comme GTA San Andreas. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont hurler oui mais arrêtez GTA San Andreas. C'est la violence banale, gratuite, sans aucun sens. Et on peut se poser la question si ce jeu qui est interdit au moins de 18 ans mais que n'importe quel monde peut acheter dans des grandes surfaces même s'il a 12-13 ans, est-ce que c'est vraiment un message qu'on peut transmettre avec cet enfant qui est en pleine croissance intellectuelle, physique et psychique? Est-ce qu'on peut se poser des tas de questions là-dessus? Donc voilà pourquoi il faudrait que ces fabricants de jeux, les syndicats d'éditeurs de logiciels et tout ça balayent un petit peu devant leur porte et se posent beaucoup de questions là-dessus.
Jean-Charles Layébé.
Voilà, en partie ça vient d'être dit, ça me paraît un petit peu une vision angélique de... de vouloir bien faire, pas provoquer d'addiction, mais embaucher des jeunes qui font des jeux et eux, alors ils déconneraient à plein de tubes.
C'est tout le paradoxe. Que,
voilà, c'est un problème. Non, moi je comprends votre position parce que vous êtes une société et que vous devez à moyen terme travailler avec les patrons de firmes.
Ah non, mais là je vous arrête. Là vous êtes en train de m'expliquer que je suis obligé de composer avec eux, c'est-à-dire que je serai complaisant, ce qui n'est tout à fait.
Non, mais vous dialoguez avec eux. Vous avez vous-même dit au début de l'émission que vous aviez eu du mal à discuter avec les patrons de jeux vidéo.
Justement, c'est vous qui l'avez dit. Alors oui, mais dans ce que dit Monsieur Ayebi, c'est pas exact. C'est-à-dire qu'en fait, le fait d'être une société privée. Pourquoi être une société privée? D'ailleurs, c'est très intéressant, tiens, philosophiquement.
Bon, je parlerai plus tard alors.
Parce que vous allez faire la carte d'identité
de votre société.
Non, pas du tout. Non, non, mais c'est voilà. Très. Non, mais il faut que je réponde. Non, mais réponde.
Laissez d'abord, Monsieur Ayebi, s'exprimer. Vous répondrez après.
Ah bah alors, il faut. Mais,
non, pour un fabricant de jeux vidéo, un bon jeu vidéo, c'est un jeu qui rend à des qui se vend à des milliers d'exemples, des millions d'exemples. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Il faut vraiment croire au Père Noël. De dire que ils veulent bien faire. Le fait est que 8 jeux vidéo sur 10 ne posent pas de problème d'addiction, qui se vendent dans les comptés dans les 4-5 000 unités, mais pour les grands jeux que nous connaissons, que je ne citerai pas ici, il y a une visée, il y a l'usage et l'emploi des psychologues, il y a l'étude de la psychologie américaine qui étudie les circuits de récompense.
Les circuits dans le cerveau qui déclenchent.
Écoutez, prenez l'exemple par exemple d'un jeu qui a fait beaucoup parler de violence pure, vraiment. Dans la première scène, il vous faut pas 30 secondes sans que vous soyez entré dans le jeu. Vous pouvez frapper à une porte, là, et on voit l'autre face de la porte, il y a un monsieur dénudé, avec des boules dans la bouche, sadomaso total, et une jeune fille à tenue excitante qui est en train de fouetter quoi que ce soit. Vous venez que de mettre le CD dans votre tour, quoi, hein. C'est pas, vous n'avez rien fait. Ou alors, je peux citer d'autres exemples. Dans un des jeux, vous entrez, vous marchez, il y a des petites bulles là, bleues, ça apparaît, vous les touchez, un message s'affiche, votre pouvoir de truc, ça a été augmenté, et vous passez à un statut à l'autre, des choses comme ça. Donc c'est vraiment de la psychologie de récompense, excessivement bien utilisée et mise en acte.
Dan Valéa.
C'est pas étonnant que les fabricants américains de jeux, parce que, bon, j'étais à San Andreas et j'ai pas de gêne à le mentionner. Dans ce jeu, le fabricant de jeux vient de payer une amende de $20 millions. Pour une raison toute simple, ils avaient inclus un patch dedans avec des scènes vraiment sadomaso, gore, à outrance. Jusque-là, on peut se dire, bon, ça peut arriver. Le problème, c'est que c'est même les fabricants de jeux qui ont mis online les liens vers ce patch. Pour que les joueurs, même mineurs, puissent accéder à ce genre d'infos. Évidemment qu'il y en a beaucoup qui sont stimulés par ce côté gore. Et passons, parce qu'on trouve sur Internet sous Dailymotion des tas d'images ou quoi que ce soit. Et c'est là peut-être l'aspect sur Internet. On parlait beaucoup d'images, on parlait beaucoup de virtualité. Là, je viens de découvrir un truc qui m'a complètement échappé. Le jeu du foulard. Et un jeu qui s'appelle le Revendien. Je trouve vraiment le lien, je tape Revendien et vous trouvez tout de suite des séquences de mômes qui sont en train de se suffoquer avec des risques quand même pour la santé. Sans aucun message de prévention, sans aucune attitude de la part de ceux où on trouve ce type d'infos. Donc c'est là peut-être où on va diffuser quelque chose où on sait très bien que ça va pas tomber dans l'oreille d'un sourd finalement.
Éric Boisna, juste deux mots sur votre réaction.
Oui, écoutez, il faut raison garder.
Tout d'abord, tout en parlant de la cyberdépendance, on va tout, pas...
Évidemment, nous parlons de la cyberdépendance.
Et très rapidement, parce que l'heure tourne.
Je répète, j'ai rencontré la plupart des opérateurs de jeux vidéo, je parle pas des jeux d'argent spécialement, donc je suis un acteur depuis très longtemps, il n'y a aucune complaisance dans mon métier, et le fait, justement, de créer des dispositifs privés font que ce sont des dispositifs qui savent gagner de l'argent, qui sont pérennes, qui sont exportables et qui peuvent sauver des gens en masse. Ça, c'est très important. Le fait de donner cette responsabilité à des associations qui n'ont pas de moyens fait qu'on sauve personne. Ça, c'est pour le premier point. Deuxième point. Je ne suis pas du tout d'accord. Deuxième point, non. Justement sur la cyberdépendance. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vient de dire Monsieur Ayebi, ni d'ailleurs avec ce que vient de dire Monsieur Valéa, qui est aussi mon ami par ailleurs. Parce que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il y a d'un côté des éditeurs de jeux vidéo qui font un métier sérieux, proprement, avec des jeux qui sont plus ou moins intéressants et qui ont prise dans la vie réelle, tout simplement. Par contre,
Il y a l'existence d'Internet que personne ne maîtrise. Il n'y a pas d'outils de sécurité, même si on essaye d'en construire. Et effectivement, il y a des abus. Il y a des passerelles qui ne devraient pas exister. Donc, ce n'est pas en soi des problèmes d'addiction, ce sont des problèmes de mauvais usage qui sont de la responsabilité de tous, des institutions, des psychiatres, des opérateurs de jeux vidéo et de l'utilisateur. C'est une co-responsabilité, mais il n'y a pas une espèce de
nébuleuse. On arrive de déjà à une co-responsabilité, c'est déjà mieux.
On a une co, oui, tout à fait, mais excusez-moi, ce n'est pas un méchant métier qui va attaquer les jeunes.
Non, non, je voudrais avoir la réaction de... Moi, quand j'emploie des gens,
s'il vous plaît.
Bah, ils font le produit avec l'éthique que je pose. Ils ne font pas à leur tête.
Vous ne maîtrisez pas des millions de gens sur Internet, c'est très compliqué.
Michel Moati, qui est...
Les trucs sont dans le logiciel, les scènes, les graphistes ont été payés pour dessiner cela.
Jean-Charles Naïebi, s'il vous plaît, je voudrais donner la parole à Michel Moati sur ces questions, puisqu'il est à Montpellier et que de ce fait, il est défavorisé par vous, par rapport à vous-même qui êtes autour de la table.
Je vois pas l'image, mais j'imagine l'animation dans le studio à Paris. D'ailleurs, je rigolais un peu parce que cette début de polémique me rappelle une anecdote qui des tout débuts de l'internet. Je crois que c'est une psychologue américaine qui s'appelait Kimberly Young, qui était une des premières, si je me souviens bien, à avoir appelé les phénomènes de dépendance, d'avoir isolé, je ne sais pas comment on dit en termes médical, l'internet addiction disorder, le désordre de dépendance à internet. Et cette Kimberly Young avait, je crois, ouvert un centre de traitement des cyberdépendants, et ce centre de traitement était en ligne. Il fallait se connecter pour se faire soigner. Donc c'est ce paradoxe.
C'est le comble. Ouais.
C'est le grand paradoxe, et c'est vraiment l'escroquerie totale, parce que le Center for Online Addiction qu'elle a ouvert, déjà c'est pas elle qui a créé le concept, c'est Goldberg et Moscovici en 95. Ouais. Mais le problème, c'est qu'on s'est rendu compte finalement qu'elle a publié une étude sur 395 étudiants, et ensuite l'année d'après, elle avait une étude très scientifique sur 10 000 étudiants. Ouais. Impossible à réaliser, évidemment, on se pose des questions sur la méthodologie, et là vraiment des consultations online qui sont assez hasardeuses, parce que on peut pas prétendre de soigner sans avoir vu un cyberaddict online, parce que ça rime peut-être de soigner un alcoolique dans un bistrot devant un verre de vin.
Mais c'était juste une parenthèse, la polémique, la sorte de paradoxe qui semblait se mettre en place dans votre studio là, qui m'avait fait penser à ça, mais je voulais pas du tout qu'on fasse le portrait de Kimberly Young maintenant.
Surtout qu'elle n'est pas là. Hein.
Elle n'est pas là. Vous, Michel Moati, vous étiez parti au début de cette émission par une espèce d'un peu remise en doute par rapport à ce dont on a parlé précisément, ce qu'on a décrit comme véritable cyberdépendance. Quelle est votre position? Il semble qu'il y ait quand même, même si on écarte la tentation d'un procès d'Internet qui est toujours un petit peu là en arrière-plan, il y a quand même effectivement des cas où une aide véritable doit être apportée à certains qui en ont besoin.
Sans doute, ça, je ne vais pas le réfuter ici, bien entendu. La seule chose, c'est que moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas psychologue, je suis sociologue. Donc, ce qui m'intéresse, c'est les usages et moins que les dérives. Les dérives, à la limite, je les constate, mais je vais les approcher plutôt comme un révélateur de quelque chose. Par exemple, ce que des psychologues, des psychiatres appellent parfois l'addiction, moi je vais peut-être y voir un usage social nouveau qui à mon avis, hein, et je crois que c'est ça qui est le plus important dans l'approche que la sociologie peut avoir, un usage social nouveau qui réinjecte du lien dans un monde qui en manque cruellement, qui en manque de plus en plus, le monde réel j'entends. Donc c'est ça qui va après savoir qu'est-ce qu'on va définir comme cyberaddict, comme internet dépendant, etc. Ça je laisse la parole bien volontiers à vos invités médecins et psychiatres, c'est évidemment pas de ma partie et pas de ma compétence d'en juger.
Alors une question d'une auditrice, Marina de Paris, qui nous dit qu'elle pense qu'il n'est pas possible d'échapper à la dépendance d'Internet et de l'ordinateur parce que les internautes ont de plus en plus besoin d'informations, même si cette information est inutile, et que Internet est le lieu qui permet d'utiliser ou de trouver cette information très facilement. L'ordinateur coûte de moins en moins cher, et avec toutes les technologies, Wi-Fi et autres, mini PC, cette information est de plus en plus accessible également.
Oui, et l'accessibilité fait partie d'une triangulation qui intervient dans l'addiction. pour avoir travaillé également sur les jeux d'argent et le mécanisme. On a vu par exemple avec des jeux qui présentaient des tirages toutes les 5 minutes, qui a fait son apparition dans le bistrot parisien. On a eu des problèmes qu'on n'avait pas avant. L'accessibilité fait partie d'un mécanisme qui intervient dans l'incitation. Ceci étant, je dirais à Marina tout simplement que l'usage devient possible, l'usage devient nécessaire, mais pas forcément la dépendance. La dépendance ne peut pas être une nécessité, c'est un accident de l'utilisation.
Alors, tout à fait, comme nous approchons du terme de cette émission, c'est le moment du petit exercice final que nous proposons toujours aux invités de Sciences Publiques, répondre en quelques mots à la question qui fait le titre de cette émission. Alors, comment échapper à la cyberdépendance? Quelle serait votre la synthèse que vous pourriez apporter, Éric Boinin?
Moi, d'abord, je voudrais dire une chose, c'est que nous ne sommes les mêmes victimes que les internautes, parce que nous sommes ici des internautes aussi. On n'a rien à envier à une certaine marque de parfum qui parle d'addict, parce que nous aussi, nous parlons d'addiction, alors que nous devrions parler d'usage nocif. Et je pense que il s'agit d'une co-responsabilité d'acteurs, et je pense que mettre le mot addiction sur tous les problèmes d'Internet, c'est un faux problème, c'est une mauvaise compréhension.
Jean-Charles Nayibi, encore plus rapidement.
Encore plus rapidement, donc j'ai bien fait de le rappeler qu'il y a les mésusages, et il ne faut pas tout confondre avec l'addiction, deux mots, prévention et dispositif de traitement. On a besoin de ça.
Michel Moati.
Oui, mais moi je vais rester dans mon credo. Hein. Moi, je dirais qu'il y a aussi des addicts au monde réel, des addicts au réalisme, des activistes de la réalité, et que certains d'entre eux, peut-être, me font plus peur que bien des accros à Internet.
Dan Valéa.
Il faut insister justement sur le rapport de l'individu à l'objet. C'est pas Internet en soi qui est quoi que ce soit, c'est l'individu avec ses facteurs, donc c'est pour ça qu'il faut prévenir, éduquer, et pouvoir aider par la suite.
Alors, j'en reviens pour terminer à Jean-Claude, l'auditeur que je citais tout à l'heure, et qui nous demande également, quid de la radiodépendance? Nous sommes des énormes auditeurs de France Culture. Et donc, notre débat s'achève. Merci à nos invités. Je rappelle qu'Éric Boinin est président d'Addictel, un dispositif d'aide et de prévention destiné aux joueurs. Jean-Charles Nayibi est psychologue clinicien, auteur de la cyberdépendance en 60 questions, publié chez RETS en 2007. Michel Moati est maître de conférence en sociologie à l'université de Montpellier 3 et auteur de La vie cachée d'Internet, réseau, tribu, accro, édité par Imago en 2002. Enfin, Dan Velea est psychiatre spécialisé dans les comportements addictifs. Il a publié Toxicomanie et conduite addictive en 2005 et il prépare un nouvel ouvrage, Ennui, cyberdépendance et société, qui paraîtra d'ici la fin de l'année chez Payot et qu'il a écrit en collaboration avec Michel Hautefeuille. Sur le site de Sciences Publiques, sur francecultures.com, vous trouverez des références de sites internet et d'ouvrages sur la cyberdépendance, en particulier le site d'Addictel. La semaine prochaine, une nouveauté dans notre émission avec la première réunion du Club de Sciences Publiques. Une fois par mois, nous retrouverons les mêmes invités qui commenteront l'actualité scientifique sous l'angle de l'impact de la science sur la société. Il s'agit donc d'une analyse politique des questions scientifiques à laquelle nous vous invitons en compagnie d'observateurs avisés et de spécialistes. Rendez-vous donc le 18 septembre pour cette première du Club de Sciences Publiques. Sur le site de Sciences Publiques, sur franceculture.com, vous pouvez réécouter cette émission pendant un mois et la podcaster pendant une semaine. Sciences Publiques, une émission de Michel Alberganti, préparée et mise en ligne par Catherine Donnet, a été réalisée par Brigitte Aléo, avec Clément Daté à la technique et Denis Brunel pour la liaison en duplex avec Montpellier.